Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h15, André Berkoff.
Alors comment va la France, monsieur? Mais elle va bien, monsieur, elle va bien. Aucune partition, aucun conflit, tout va bien. D'ailleurs, notre président bien-aimé l'a dit, il faut faire bloc. Il faut faire bloc contre toutes les menaces de stigmatisation, d'intégrisme, de communautarisation, etc. Il faut faire bloc. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut faire bloc? On ne sait pas, mais je vous assure qu'on fera les traductions.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Et pendant la polémique sur le voile, sur l'accompagnement scolaire, sur ce qui se passe dans tel ou tel conseil régional, en Turquie et surtout au nord de la Syrie, eh bien, la guerre continue avec les massacres et les décapitations et autres images qu'on aimerait jamais non seulement ne pas voir, mais qu'elles n'existent pas. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ça fait 5 jours que la planète, en tout cas ce coin de la planète, est en feu. Qu'est-ce qui se passe exactement entre les grands de ce monde? On en parle tout de suite.
Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour.
Oui, un chant kurde, et comme d'habitude, évidemment, les Kurdes sont toujours entre le marteau et l'enclume. Je rappelle que les Kurdes, notamment ces Kurdes de Syrie, ont été les premiers à se battre au corps à corps, effectivement, avec Daesh, avec les forces de l'État islamique. Et aujourd'hui, ça continue. Alors, effectivement, Bachar el-Assad, les forces de Bachar el-Assad sont remontées dans le nord syrien, puisque effectivement, voyant que les Américains n'étaient plus là, ils se sont ralliés, en tout cas pour le moment, à l'État syrien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a de très violents combats, on le sait, qui encore continuent aujourd'hui, entre l'armée du régime syrien de Bachar et les rebelles pro-turcs, avec évidemment les forces turques. Les progressions, effectivement, continuent. On ne voit pas ce qui va se passer encore. Et on va demander à quelqu'un qui a été très longtemps et qui a écrit, effectivement, sur les Kurdes, qui a été très longtemps et qui va y retourner, effectivement, à Kobané et dans le Kurdistan syrien, Patrice Franceschi, écrivain, essayiste, voyageur, grand voyageur. Patrice, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, André.
Alors, Patrice, est-ce que vous avez eu des nouvelles, vous, de Kobané et de vos amis kurdes, tout récemment?
Écoutez, je dirais quasiment heure par heure. Vous savez que je suis engagé auprès des Kurdes.
Oui, on le sait.
Depuis la guerre, depuis 7 ans.
Et vous le dites, pour ça que vous assumez absolument vos...
Oui, tout à fait.
Vos partis pris.
Oui, ce ne sont pas des partis pris, ce sont des engagements.
Oui.
Tout simplement parce que des intérêts sécuritaires,
oui,
des Kurdes de Syrie et de la France, par rapport aux attentats de l'État islamique,
oui,
les intérêts sécuritaires sont liés depuis le début de la guerre. C'est pour ça que la France est intervenue là-bas, fait partie de la coalition,
oui,
et a permis, grâce aux combattants kurdes, hommes et femmes,
ouais,
de vaincre l'État islamique, notamment avec la prise de Raqqa, qui était leur capitale en Syrie. Très bien. Ce que je craignais, ce que les amis des Kurdes craignaient, évidemment, une fois l'État islamique éliminé territorialement, mais pas, évidemment, mentalement et idéologiquement,
ouais,
c'était tout simplement que ce monde occidental, qui ne sait pas souvent voir sur le temps long, et qui ne sait pas vraiment se défendre, eh bien, abandonne les Turcs, les Kurdes, et que ce bouclier kurde anti-islamique que nous avions installé au Moyen-Orient, dans le nord de la Syrie, qui faisait quand même 4 fois la taille du Liban,
oui,
et d'un seul coup soit laissé aux mains des pires ennemis des Kurdes, que sont les Turcs, et même le régime de Bachar el-Assad. Donc,
mais alors, comment vous expliquez, juste Patrice, je vous interromps pour avoir les noms, comment vous expliquez, ils n'avaient pas le choix de demander l'aide de Bachar el-Assad, les Kurdes?
Ils n'avaient pas le choix.
Ouais.
Depuis le début, je crois que je l'avais expliqué ici sur cette antenne, et encore, il y a très peu de temps, quand j'étais là-bas avec leurs dirigeants, ils avaient le choix, si on les lâchait, entre finalement la peste et le choléra.
Ouais.
La peste, eh bien, c'est les Turcs,
ouais,
qui ne veulent pas seulement les vaincre, mais veulent vraiment faire dans le nord de la Syrie, le nettoyage ethnique qu'ils ont déjà fait dans la région d'Afrine qu'ils ont conquise en 2018.
D'accord.
Et installer dans cette région-là, pourquoi nettoyage ethnique ? Parce que Erdogan l'a bien dit, installer dans cette région-là les 2 millions et demi d'Arabes syriens qui sont réfugiés en Syrie, en Turquie, et qui n'ont rien à faire, rien à faire dans le nord de la Syrie, c'est pas leur pays. Bon. Donc ça c'est la peste. Le choléra, c'est Bachar al-Assad qui leur a dit depuis le début, de toute façon c'est à genoux qu'un jour on viendrait à Damas me demander mon aide. Oui. Et je viendrai, bien entendu, parce que lui, ce qu'il veut, c'est revenir au statu quo ante de 2011, c'est-à-dire que les Kurdes redeviennent des citoyens de seconde zone en Syrie, et que lui, ça le maître du pays, et de leur faire payer très cher les 7 années d'autonomie qu'ils avaient conquises avec nous, contre l'État islamique.
Donc, avec nous, et vous l'avez dit, un État laïque, etc., etc., avec les femmes, les postes de commande, etc. On l'a dit, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Patrice? Où on en est?
Alors, premier point, la situation n'est pas aussi désespérée que ce que l'on peut entendre dans la presse. Il y a pas mal de zones du Kurdistan syrien qui n'ont pas encore été attaquées et où les Kurdes se préparent au combat. Tout l'été, quand j'étais là-bas, ça creusait des fossés anti-chars, ça élevait des remblais, ça creusait des tunnels dans la ville pour se préparer au choc, parce que nos amis kurdes, malgré les promesses qu'on leur faisait de ne pas les abandonner, parce que c'était notre intérêt de ne pas les abandonner, se préparaient au choc contre les Turcs. Et ils les faisaient bien. Dans les zones où les Turcs ont massivement attaqué, ça s'appelle Syrie Kani, Tel Abyad, etc., les Kurdes résistent farouchement, comme ils l'avaient fait devant l'État islamique à Kobané.
Ils continuent de résister. Ils continuent de résister.
Complètement. Je veux dire ce qui se passe. En réalité, la résistance est très difficile parce que le nord de la Syrie, ce Kurdistan syrien, c'est une immense plaine, et une plaine, c'est facile à prendre et difficile à défendre. De surcroît, sur ces 800 kilomètres, les Turcs ont une artillerie très puissante, des blindés, des chars léopards allemands très puissants, et surtout l'aviation. Ouais, l'aviation strafe, bombarde, mitraille, essaie de terroriser les populations civiles, et ils y réussissent pas mal dans cette région-là. Les combattants kurdes et combattantes résistent farouchement, parce qu'ils se battent vraiment dans une guerre existentielle pour défendre leur famille. Ils se battent. Le problème qu'ils ont actuellement, c'est que toutes les villes kurdes sont sur la frontière turque, donc à 100 mètres des Turcs, et que, se battre en milieu urbain, ce que les Kurdes savent très bien faire, eh bien là, c'est mettre leur propre population
en danger. Bien sûr.
Les Turcs ne se battent pas comme nous l'avions fait nous pour l'État islamique. C'est-à-dire que nous, on a toujours tout fait pour éviter les dégâts collatéraux. Il y en avait parfois, mais tout fait pour les éviter. Pour les Turcs, je vous garantis, je vous avais envoyé des images là-dessus, eux, le dégât collatéral fait vraiment partie de la guerre, il faut terroriser. Ouais. Donc les Kurdes résistent, mais avec beaucoup de difficultés. Et vous savez ce que leurs chefs leur disent depuis plusieurs jours ?
Oui.
C'est que la France ne les a pas abandonnés au sens propre du terme. C'est évidemment M. Trump qui est à l'origine de cet effondrement, finalement, de cette faute morale et cette faute politique.
Ouais.
Et il compte sur la France et l'Europe pour, d'un point de vue politique et diplomatique, renverser la tendance avec des sanctions contre la Turquie, peut-être une exclusion de l'OTAN, et qu'ils se battent en ce moment pour laisser le temps à la politique et à la diplomatie, peut-être, de renverser
la tendance. Patrice, je vous rejoins sur l'objectif. Malheureusement, je crois que c'est un vœu pieux et très malheureusement. On voit l'impuissance de l'Europe, on voit que la France est très bien, Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, notre ministre est allé en Irak. Mais enfin, écoutez, ils vont se battre. Je voudrais quand même juste vous dire quelque chose, parce qu'on en a parlé ce matin, par rapport à l'AFP, parce que j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc l'AFP a fait un communiqué en disant « Donald Trump a estimé que le Parti des Travailleurs du Kurdistan, PKK, qui mène une sanglante guérilla contre la Turquie depuis plusieurs décennies, était probablement une plus grande menace terroriste que le groupe djihadiste État islamique. » Ce qui est évidemment une phrase totalement scandaleuse et lamentable, il faut le dire, si c'était le cas. Or, l'AFP, qui nous a déjà donné la mesure de ses performances avec Dupont de Ligonnès, la traduction, c'est pas ça. Trump a dit, je le dis en anglais pour le redire en anglais, « ISIS respects PKK because they are tough or tougher ». C'est-à-dire qu'il dit que l'État islamique, enfin Daesh, respecte le PKK parce qu'ils sont très durs et ils sont plus forts qu'eux. C'est ça qu'il a dit, Trump. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ça n'excuse pas le reste, mais enfin, c'est pas tout à fait la même chose.
De toute façon, les Kurdes ont démontré, PKK ou PYD ou tout ce qu'on veut au niveau des Kurdes, qu'ils étaient bien plus forts que l'État islamique, puisqu'ils ont vaincu avec nous.
Exact.
Je rappelle qu'ils ont quand même consenti à 36 000 tués et blessés dans une opération militaire avec nous, qui a dépassé nos espérances parce qu'ils ont gagné, où nous, nous avons eu la France un tué et deux blessés. Si nous avions l'équivalent de ces Kurdes au Sahel, je peux vous dire...
Oui, ce serait autre chose.
Bon, voilà. Donc, il faut reconnaître que la faute morale que nous avons commise là est épouvantable. C'est un déshonneur. Et je peux vous dire que tous nos soldats français qui ont combattu avec les Kurdes sont... comment dirais-je, sur la même ligne que ce que je vous dis.
Oui, mais vous avez raison, et Trump, il n'est pas question de l'exonérer. Il l'avait dit il y a un an, il le fait, mais c'est assez lamentable. Mais je trouve que ce qui est encore plus lamentable, c'est la position de l'Europe, je veux dire la position de l'Europe, l'impuissance de l'Europe. Vous avez dit effectivement exclure la Turquie de l'OTAN, menacer de représailles économiques et de sanctions, mais vous savez très bien qu'on a peur, parce que dit Erdogan, si c'est comme ça, je lâche les migrants vers l'Europe.
Alors, il faut savoir que dans cette affaire de migrants, il dit des conneries. Pourquoi ? Ces réfugiés arabes, syriens, en Turquie, sont là depuis plusieurs années. Ils sont déjà installés, accrochés. Ils n'ont pas d'arrivée. Ils ne sont pas menacés de mort. Donc, les larguer, il faudrait qu'ils les poussent à la mer pour qu'ils partent.
Mais il est capable. Il en est capable, vous le savez.
Dans ce cas-là, on verrait qu'il est en train de chasser les réfugiés. Je vous dis pas ce qu'on pourrait dire aux Nations Unies. Il serait en train de chasser des réfugiés syriens qui n'ont rien fait à personne. Où il va les chasser? Il va les mettre à l'eau? Quel bateau il va les mettre? C'est une fausse menace. Il ne peut pas. Ces types-là seraient en train d'arriver chez lui. Oui, il les pousserait. Les types se diraient
bien sûr. Mais ils sont déjà là, je comprends.
Ils sont déjà là devant. Donc, on ne largue pas 2,5 millions de gens.
Comme ça.
C'est impossible. Il essaie de nous faire peur. Ouais. Notre problème, je vais vous dire, dans Mourir pour Kobané, il y a 5 ans, où je racontais le début de la guerre et ma participation avec les Kurdes, je disais que finalement, c'était avant que nous n'intervenions, nous étions trop souvent un peuple effrayé, dirigé par des gens effrayés. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe à nouveau.
Nous
avons eu un bon sursaut et notre président de la République a été sur ce dossier vraiment exemplaire. Je rappelle que c'est le seul chef d'État à avoir reçu officiellement à l'Élysée des délégations
kurdes, c'est vrai,
arabes et chrétiennes, car il ne faut pas oublier les autres, à deux reprises, et la veille de l'offensive turque, il a Mahmoud aussi. Bon,
on va
rien n'est perdu.
Oui, rien n'est perdu. Merci en tout cas, merci de votre témoignage. On va continuer évidemment dans les jours prochains avec vous à suivre tout cela. Mais je voudrais enfin, et merci Patrice, mais je voudrais vous lire, pour le meilleur et le pire, parce que c'est extraordinaire, parce que eux, non seulement ils tweetent Donald Trump et ils donnent le contenu de ses lettres, la lettre qu'il a écrite, je vous la traduis bien sûr, le 9 octobre 2019, à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Je vous le lis vraiment dans le texte parce que c'est... Voilà. Cher Monsieur le Président, on va faire un bon deal. Vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas sûrement être responsable de massacrer des milliers de gens et je ne veux pas être responsable de la destruction de l'économie turque. Mais je le ferai. Si vous ne le faites pas, je vous ai donné un exemple avec Pastor Brunson, c'était un Américain qui était un prisonnier en Turquie qui a été libéré. Il dit, j'ai travaillé pour résoudre certains de vos problèmes. N'abandonnez pas le monde, n'abandonnez pas vos interlocuteurs. Vous pouvez faire un grand deal, on est prêt, le général Mazloum est prêt à négocier avec vous, je vous donne sa lettre. Alors, il dit, l'histoire va vous regarder de façon très favorable et si vous faites ça de manière humaine, etc. Je vais, de ce point de vue, ça va être bien. Mais vous serez le diable si les bonnes choses n'arrêtent pas. Ne faites pas, écoutez comment finit la lettre, ne faites pas le dur, don't be a tough guy, et ne faites pas l'imbécile. Carrément, dit Trump à Erdogan, je vous appelle plus tard. On sait que depuis, on n'est plus le 9 octobre, on est le 17 octobre, il y a eu la guerre, il y a eu les massacres. Est-ce que Trump va mettre sa menace à exécution ou ça va être des billevesées trumpiennes? On va le savoir très vite.
Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc...
Ouais, c'est Coluche, Coluche, hein, misère, une chanson de Coluche, effectivement, et encore une fois, Pas une nouvelle qui peut nous réjouir, loin de là, le nombre de pauvres a augmenté en France en 2018 et assez sensiblement, selon l'INSEE, qui vient de publier une étude. Selon l'Institut de la Statistique, le taux de pauvreté passerait de 14,1% à 14,7% de la population. C'est-à-dire près de 15% sont, des Français sont sous le taux de pauvreté. Ça fait 400 000 personnes de plus en un an. C'est quand même beaucoup. Vous savez qu'on considère que le revenu médian, c'est un peu 60% l'état de pauvreté par rapport au niveau de vie médian. C'est-à-dire que c'est une personne pauvre et considérée comme une personne qui vit avec moins de 1041 euros par mois, pour être très très précis. Et selon ces critères, 9,3 millions de personnes auraient été en situation de pauvreté monétaire en 2018. 9,3 millions de personnes, près de 10 000 personnes, c'est beaucoup. C'est trop, c'est beaucoup trop. Le niveau de vie autrement a augmenté en haut, mais en bas, c'est vraiment pas le cas. Mais, eh bien, écoutez, il paraît que la pauvreté, mais c'est pas mal pour la transition énergétique et écologique. Ah bon ? Écoutez ce qu'on a entendu le 15 octobre dans une émission de France Culture.
Dans la mesure où il est avéré que ce sont les riches qui contribuent le plus au réchauffement de la planète, les 10% les plus fortunés sont responsables de la moitié des émissions de carbone, plutôt que de lutter contre la pauvreté, il faudrait d'ailleurs lutter contre la richesse. On appelle ça soit la révolution, soit la fiscalité, et cela suppose bien plus que le rétablissement de l'ISF pour que ça fonctionne, ou alors il faudrait miser sur un mouvement global de sobriété spontanée, mais personnellement je ne jouerai pas mon livret jeune là-dessus. Alors bien entendu, cette position qui consisterait à maintenir un niveau élevé de pauvreté pour limiter les émissions de CO2 est intenable. Elle l'est d'abord sur le plan moral. Ben. Comment tolérer qu'aujourd'hui encore, et malgré la réduction importante du nombre de pauvres dans le monde, près de 783 millions de personnes vivent, selon l'ONU, avec moins d'1,90$ par jour, soit en dessous du seuil international de pauvreté.
Oui, enfin, c'est très bien tout ça, hein, ça part de vœux pieux formidables. Mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que, effectivement, du point de vue moral, on ne peut pas dire qu'on maintiendrait les pauvres dans leur pauvreté, parce qu'effectivement, ils limitent les émissions de CO2. Et alors, les riches, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, cher Hervé Gardette, dans sa chronique. Ça ne veut rien dire, pourquoi ? Parce que, évidemment, les pays de la planète, la Chine, l'Inde, la Russie et autres, vont, peut-être par pur cynisme ou par pur intérêt, maintenir leur niveau élevé de CO2. Et la France, qui est à moins de 1% de l'émission de CO2 dans le monde, on lui demande de serrer sa haire avec sa discipline et de se fouetter pour arriver à des résultats supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que d'abord, s'il y a pauvreté et s'il y a 15 millions de pauvres, occupons-nous-en avant de s'occuper de CO2, excusez-moi, et avant de s'occuper et voyons du côté de l'Allemagne où les centrales à charbon continuent de le polluer à mort. C'est ça qui manque. Cette espèce d'hypocrisie, bobo, je ne parle pas de vous, Hervé Gardette, et de France Culture. Je parle de dire oui, le CO2. Mais quand il y a pratiquement 10 millions de pauvres, eh ben écoutez, moi je vais vous dire, le CO2, ça passera au second plan par rapport au reste. Parce que ça, c'est que, quand on est nanti, évidemment, c'est tellement facile de se préoccuper de cela. Hein. Extinction, rébellion, non. Lutte contre le paupérisme. Voilà ce qu'il faut.
En tout cas, vous nous appelez au 0826-300-300 pour réagir aux prises de position d'André Berkoff. Est-ce qu'il faut sanctionner la Turquie qui livre sa guerre aux Kurdes de Syrie ? En ce moment, tiens, c'est toujours notre allié, la Turquie. Est-ce qu'il faut l'exclure de l'OTAN ? Pourquoi pas ? Ben, vous nous donnez votre avis, que vous soyez d'un point de vue ou d'un autre. D'ailleurs, tout le monde est bienvenu sur Sud Radio. 0826-300-300. À partir de 13h, on vous donne la parole sur Sud Radio.
Ici, Sud Radio. Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Pendant que chacun s'acharne, se déchire, se polémique, postillonne et salive sur la PMA sans père, sur l'affaire du voile au conseil régional de Franche-Comté, sur ceci et sur cela, pendant ce temps, dans un silence, je dois dire, assez assourdissant, les églises sont vandalisées, les églises brûlent, les églises sont taguées, et franchement, bah, tout le monde s'en fout. Ah bon ? Vous croyez que c'est ça qu'il faut faire ? Et puis on va parler évidemment d'un document sur la laïcité qui n'est pas piqué des hannetons.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Un chant grégorien. Alors il ne s'agit pas ici de prendre la défense d'une religion pas par une autre. Moi je suis profondément laïque, mais la laïcité c'est aussi le droit de s'exprimer pour toutes les religions. Et je voudrais quand même rappeler que là, il y a exactement quelques jours, en Algérie, deux églises ont été fermées, notamment une à Tizi Ouzou, une église protestante, qui a été fermée là, hier, et c'est-à-dire, vous savez, la communauté chrétienne en Algérie, elle n'est pas très importante, eh bien, on ferme les églises, et 1500 chrétiens n'ont plus de lieu où exercer et pratiquer leur foi. Mais il faut aussi appeler que ça ne s'arrête pas là, c'est pas en Algérie que ça se passe aussi, c'est en France. Selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, le nombre d'actes antichrétiens il y a eu 1063 actes recensés en 2018. C'est-à-dire que, en fait, depuis, et 2017, même chose, plus d'un millier d'actes par an, soit une moyenne, retenez bien ceci, auditeurs de Sud Radio, soit une moyenne de 3 agressions par jour. Alors, ce n'est pas des incendies, ce n'est pas des destructions seulement, c'est un peu tout. Et je vous donne comme ça en vrac, on pourrait passer une heure là, je vous donne en vrac ces derniers mois, je vous donne en vrac septembre-octobre. Incendie de l'église Saint-Jacques à Grenoble, on a dit que c'était un accident, c'était bien un acte criminel. À Marseille, un crucifix de l'église de la Croix vandalisé pour la 5e fois. En Colombie, vous voyez, un peu partout, prêtre assassiné dans le département du Cauca, Mexico également. À la Sarthe, revenons en France, 2 établissements scolaires catholiques vandalisés. Un peu partout, Saône-et-Loire, église Saint-Pierre Vitraux de l'église de Sagy en Saône-et-Loire, caillassée. L'église Saint-François-Xavier incendiée au Québec, là. Un collège jésuite caillassé et dévasté. Un peu partout, il y a ceci. Et moi, ce qui me frappe, simplement, parce qu'on voit encore une fois 3 actes malfaisants par jour concernant des églises. 3 actes malfaisants, ça fait beaucoup.
C'est quoi ? C'est des tags, en gros ? Ça peut être des vitraux cassés, ce genre de choses.
Des vitraux cassés, des églises aussi. Enfin, des statues de la Vierge, etc. Mmh. Moi, ce qui me frappe, quand même, je dis, c'est drôle, quand il s'agit d'une synagogue, on en parle partout. Quand il s'agit d'une mosquée, on en parle, et plus qu'à son tour. Et c'est très bien. Mais je voudrais simplement savoir comment explique, mais je suis sûr que, et j'attends des explications, pourquoi quand il s'agit d'églises, où effectivement les agressions sont devenues quotidiennes, pourquoi ? Eh bien, silence. Ah non, ça, oui, mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? C'est pas d'amalgame, stigmatisation, ce n'est pas notre problème et tout. Moi, j'aimerais simplement que, encore une fois, et pour la 10e fois, que l'indignation, que les protestations ne soient pas à géométrie variable, comme ça l'est de plus en plus chez nos bonnes âmes en ce moment.
Bon, mais écoutez, en tout cas, si vous-même, dans votre ville ou votre village, vous avez vu, par exemple, un acte de vandalisme contre une église, pourquoi pas ? Vous nous appelez, pareil, 0826-300-300, Berkov dans tous ses états, qui vous attend à partir de 13h sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici.
Eh bien, il n'y a pas que la mère de Georges Brassens, c'est du gorille évidemment immortel. Il y a l'UNESCO. Oui, l'UNESCO s'est comporté comme la mère du divin Georges. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, récemment, il y avait les journées du patrimoine, vous savez, un peu partout. Et un artiste plasticien a été invité par l'UNESCO à exposer, Stéphane Simon, a exposé plusieurs de ses statues. Eh bien, il les a exposées. Et il a constaté, quand il est venu voir, ainsi que le public, que le sexe a été caché sans le prévenir. On n'a rien dit à Stéphane Simon, il arrive, il voit caché. Alors il dit, mais pourquoi ces sculptures inspirées de la statuaire grecque ? Alors voilà, chacun de ces nus traduit un des gestes contemporains lui partagés du monde, celui du selfie, photographié, etc. Eh bien voilà, on a demandé à l'UNESCO, mais attendez, vous invitez un artiste, il fait des statuaires grecques, enfin inspiré des statuaires grecques, et vous cachez les sexes, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, il y a 3000 ans, on le faisait. Eh bien l'UNESCO répond avec, vous savez, ce langage, cette langue de plomb, cette langue de bois. Eh bien ils disent pour ne pas heurter certaines sensibilités. Donc on a caché le sexe, voilà. Voilà où en est l'UNESCO, voilà où en est vraiment l'aplatissement au port. Opportuniste de certaines institutions.
Mais c'était
que
où,
je
c'était
rappelle, nous subventionnons.
C'était à Paris ?
C'est à Paris, bien sûr.
D'accord.
L'UNESCO, basé à Paris, absolument. C'était lors des journées du patrimoine. Voilà où on en est. Eh bien, écoutez, cacher ce sexe que je ne saurais voir, cacher cette lâcheté que je ne saurais entendre.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Bien manger, c'est garder la santé. Moins manger, c'est la conserver. Passez le mot à qui vous voulez. Bien manger, c'est la santé.
Eh bien voilà, eh bien les députés, vous savez, ils ne se contentent pas. Ils font des bonnes choses aussi, hein. Bravo aux députés, ils ne se contentent pas de hausser leurs frais d'hébergement de 33%. Non, non, et ils ont fait un projet de loi, et ils ont voté contre l'avis du gouvernement, les députés de la Commission des affaires sociales, sur la question de non-compensation des nouvelles exonérations. Je m'explique. Vous voyez, il y avait un projet de loi, donc il dit, par exemple, la contribution, vous savez, sur les produits charcutier, et on voulait pas le faire, hein, contenant du nitrite, du nitrate ou les sels nitrités et le rosé pamplemousse, parce que c'est vrai que c'est dégueulasse, le rosé pamplemousse.
C'est quoi le rosé pamplemousse?
Le rosé pamplemousse, vous savez, c'est
la boisson. C'est un vin rosé qui a un goût de pamplemousse.
Voilà, qui a un goût de pamplemousse.
Ah oui, ça a l'air dégueulasse.
C'est ignominieux. Oui. J'ai craché une fois, j'ai goûté une fois, j'ai craché trois fois. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit, députés? Eh bien, il faut, pour une fois, voilà une bonne taxe portant sur les produits charcutiers contenant de nitrite, du nitrate ou des sels nitrités, oui, vive la charcuterie, mais pas avec ses produits minables. Et le rosin pamplemousse, moi qui aime le vin, c'est impensable qu'on fasse ça. Eh bien, bravo les députés, continuez comme ça,
c'est
vous
pas encore
nous intéressez.
Voté, hein, mais c'est une idée, ça reste une idée, pourquoi voilà. Pas taxer le jambon d'André Berkoff, essayer de le faire.
Surtout
ça pourrait
pas.
Être drôle d'ailleurs,
surtout
ça
pas.
Ferait une bonne émission. Restez avec nous à l'écoute de Sud Radio dans quelques instants, place à l'invité d'André Berkoff. André Berkoff reçoit Marc Menant, il est journaliste, il est écrivain, il nous présente ce livre « La laïcité dévoilé », c'est publié aux éditions Ramsay. Évidemment, le jeu de mots sonne tout de suite aux oreilles, hein, ça s'entend. À tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
La laïcité, le mot valise qui fait tous les trottoirs de la République, ou ce qu'il en reste, instrumentalisé par les uns, déformé par les autres. Qu'en est-il vraiment ? Eh bien, on va en parler avec quelqu'un qui connaît la musique.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
On en parle donc avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite sur Sud Radio Marc Menant, journaliste, écrivain, auteur de ce livre « La laïcité dévoilée », c'est publié aux éditions Ramsay.
Marc Menant, d'abord, je l'ai lu vraiment ce livre, voilà, c'est un pamphlet, mais c'est pas seulement un pamphlet, c'est que c'est une œuvre de recherche historique, mais en même temps, c'est une arme. Et effectivement, avec ce qui se passe en ce moment, on ne va pas rappeler l'histoire du vol, l'accompagnement scolaire, etc., etc. Ça fait des années que l'on discute de tout ça. Et vous sortez un livre qui s'appelle « La laïcité dévoilée ». Bon, évidemment, ce n'est pas une allusion à la danse des sept voiles, hein, de Salomé, je vous préviens. Et en fait, Marc, je voulais vous demander, d'abord, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous avez travaillé dans énormément de médias, on se connaît depuis longtemps, il n'y a pas à le cacher, et je vous estime, parce que vous écrivez bien, ça aussi, je voulais dire, parce que c'est pas évidemment la chose la plus répandue aujourd'hui. Mais pourquoi vous avez voulu, après tant d'ouvrages écrits sur la laïcité, vous avez voulu vous y mettre ?
Il y a un déclencheur, comme toujours. Alors disons que de par mon éducation, je suis un bouffeur de curé, j'ai été placé dans l'idéal républicain, dans la fraternité, dans cette idée que la liberté ne peut être dissociée de la fraternité et de l'égalité. Alors bon, je me morfondais dans mon coin en voyant le délitement. Et puis j'étais professeur à Rosny-sous-Bois, donc ce terreau où on a vu monter ce que l'on appelle aujourd'hui l'islamisme, mais disons cette présence religieuse, je l'ai vu poindre, et puis après, je l'ai vu fleurir. Alors tout ça, ça m'agaçait, mais je restais à distance. Néanmoins, tous les livres qui m'arrivaient sur la laïcité, c'était souvent, pardon, mais de la mauvaise philosophie, d'amachouille en quelque sorte. Alors bon, ça m'irritait, mais j'en restais là, presque un véhilitaire. Et puis voilà qu'il y a quelque temps, mon frère, qui a un an de plus que moi, se fracasse la tête dans son escalier la nuit en ayant confondu la porte qui conduit à l'endroit le plus intime avec celui qui descend à la cave. Et il dégringole, il se fracasse le crâne. Il est conduit à l'hôpital de Montfermeil, et dans cet hôpital à Montfermeil, placé aux urgences les plus extrêmes, il est entre la vie et la mort, lieu de diagnostic...
Très grave.
C'est un moribond. Et d'accord. À côté, il y a ceux qui sont malheureusement aussi victimes des vacheries de l'existence. Et pour aller le voir, c'est se donner bonne conscience, on communie par l'esprit, parce qu'il est là, entubé... Et vous devez vous présenter à un interphone, vous rendre dans la pièce uniquement par deux, mettre le masque d'hygiène, les gants, les surchaussures et autres. Bon. Et puis, juste à côté, il y a une femme turque.
Dans la chambre à côté.
Voilà.
Chambre à côté,
une femme turque. Et ce sont des chambres ouvertes, hein, parce que là, vous êtes dans l'urgence extrême. Il n'y a pas de porte. Cette femme décède. Et là, eh bien, on voit arriver l'imam qui se présente devant l'interphone, la famille est derrière lui, la famille de la
défunte. Toute une famille,
Et c'est la grande envolée. En ce lieu, on considère, selon les règles de l'hygiène, qu'on doit y pénétrer avec énormément de précautions. Et pendant trois jours, ça va être cette agitation invraisemblable.
Vous voulez dire, il n'avait pas mis les surchaussures,
rien du tout. Et puis c'était en surnombre, si je puis dire.
Bien sûr.
Et alors, mon neveu qui est là... essaie de montrer un mécontentement, mais des plus polis. Il interpelle une infirmière en disant « Mais écoutez, c'est pas possible. Là, on est dans la gravité. » Et on lui dit « Taisez-vous. » Et l'imam se retourne et lui dit « Il faut que la défunte puisse avoir son âme qui rejoigne Allah. » Et voilà. Et là, je me suis dit « Mais c'est pas possible. » Déjà, quand vous arrivez à Montfermeil, c'est vrai qu'il y a un grouillement qui heurte, parce que quand vous rêvez d'une république de fraternité, une république où l'on est en dehors de ce communautarisme qui nous sépare tous, c'est extrêmement déplaisant de voir toutes ces femmes, moi qui idéalise la femme.
Vous voulez dire les femmes voilées,
bien évidemment.
Mais très voilées, en fait.
Il y a de tout. Il y a des très voilées, mais après, moi, je vais très souvent du côté de Trappes. Vous avez des femmes encore qui conduisent avec le niqab aujourd'hui. Quand vous allez à Paris 4, c'est quand même le lieu de l'université scientifique. Vous avez des jeunes femmes, comme d'ailleurs la porte-parole de l'UNEF, qui sont habillées en bonne sœur. Et là, vous vous dites, c'est pas possible, tout ce qu'il a fallu. Et c'est pour ça que je me suis dit... Si je fais un livre, il faut rappeler d'où ça vient. Qu'est-ce qu'était la religion catholique? Comment elle nous avait mis sous l'étouffoir? Comment, pour blasphème, on avait la langue tranchée et on finissait au bûcher?
Il faut rappeler que la religion catholique était aussi, effectivement, autoritaire et totalitaire à l'époque.
L'impossibilité de penser. Les grands maîtres que sont après. Alors, ça commence avec Vanini. Il écrit en se défiant, je dirais, de la croyance au Tout-Puissant. Eh bien, rien que pour ça, il va terminer à Toulouse avec cette langue tranchée et le bûcher. Et il y a tout un courant comme ça, je dirais que c'est là...
L'affaire Calas, le jeune chevalier qui avait refusé de saluer une procession, qui a été torturé, écorché...
Le chevalier de la barre.
Le chevalier de la barre, pardon.
Mais l'affaire Calas a également un fond religieux. Et là, c'est avec Voltaire. Et Voltaire qui, là aussi, se fâche contre qui ? Ben d'abord contre la religion catholique. Et à l'époque, il y a des mouvements qui sont des mouvements de dévots, qui se coiffent et qui s'y dissimulent des autres citoyens. Alors j'ai noté, parce que je me suis dit qu'on l'aborderait peut-être, il écrit quoi ? Pourquoi se distinguer ainsi des autres citoyens ? S'en croyant-on plus parfait ? Cela même est une insulte à la nation. C'est un habit, un uniforme de controversiste. Il peut exciter une espèce de guerre civile dans les esprits. Vous voyez la modernité de la chose ?
Oui, c'est, on y est.
On y est. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
Très attention
et à qu'est-ce
tout
que
ça.
La liberté ? La liberté, là encore, il y a une définition. J'ai voulu redéfinir tous les mots. Alors laïcité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire absence, parce qu'aujourd'hui on est là, oui, est-ce qu'on fait une loi en plus ? Quels sont les droits à la laïcité ? C'est comme Nicolas Sarkozy qui parlait de la laïcité positive, qui estimait que...
Oui, alors certains disent la laïcité, mais c'est toutes les religions peuvent fleurir, d'autres non, etc. Alors vous, en un mot, c'est quoi votre définition de la laïcité ?
La laïcité, c'est simplement dans le concept qui est né... de cette période des Lumières, avec Voltaire qui va en prison, Diderot qui va en prison, et si je fais la liste de tous les martyrs de la laïcité, on est là pour 3 jours. Donc, que se passe-t-il ? C'est qu'à un moment donné, et ça rebondit au XIXe siècle, c'est d'une férocité invraisemblable, Gambetta crie « l'ennemi, c'est le cléricalisme », et il va y avoir cette loi de 1905 pour nous mettre à l'écart de ces pressions religieuses, et en l'occurrence, avant tout, de la religion catholique. Et c'est te dire... Si
tout
vous
dans
avez...
le privé, rien dans le public.
Voilà.
C'est ça. Hein.
Et donc, dans la rue, il n'y a rien. Et que veut dire d'ailleurs, il y a, quand on regarde la définition dans le littré, c'est « il n'y a pas de signe et c'est par exemple un habit laïque. Un habit laïque, ça veut dire qu'on est dépourvu de tout. Donc si on est dans la laïcité, on va et vient en laïque et on est avant tout citoyen. Mais n'oublions pas qu'en 1795, les ancêtres, ceux qui rêvent d'un monde meilleur, bien sûr il y a la terreur, bien sûr il y a tout ça, mais que disent-ils ? Pas le moindre signe religieux sur, dans la rue et sur la place publique.
Donc attendez, juste un mot, Marc Menant, pour arriver à aujourd'hui,
oui.
Et vous faites, c'est vrai, un très beau rappel historique, et vous parlez d'aujourd'hui, et je renvoie à votre livre que je recommande. Aujourd'hui, est-ce que vous seriez, alors, on peut vous dire, oui, d'accord, oui, mais vous parlez que des voiles, etc. Mais alors, est-ce qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de croix, même de croix en tant que pendentif, et plus de kippa ?
Mais bien évidemment.
Absolument.
Mais bien évidemment.
En fait, aucun signe religieux.
Aucun signe. Mais bien évidemment, regardez les dérives. Ça va rebondir dans peu de temps, au-delà du voile. Que s'est-il passé lors des dernières élections ? Vous aviez un parti islamiste qui présentait des candidats. Dans certains quartiers, il a fait, alors c'est très marginal au niveau global, mais des 75-80%. Et ce qui est fou, c'est d'essayer de faire croire qu'on a une identité à partir de la religion. La religion, dans l'esprit laïque, c'est une opinion parmi les autres. Elle n'a pas de prééminence sur le fait républicain, sur la citoyenneté. Nous sommes tous des citoyens. Mesdemoiselles qui portez le voile, je vous aime. Je n'ai rien contre vous. C'est là qu'il faut sortir également de cet amalgame qui se fait sur les conditions de vie. Sordide, je vous ai dit, j'étais dans l'enseignement à Rosny-sous-Bois. Ma maman est décédée l'année dernière. J'allais la voir à Rosny-sous-Bois, à Montreuil. Mais quand vous voyez des petites gamines qui sont voilées aujourd'hui, dès l'âge
elles
de 5
ans... Elles n'ont pas choisi.
Et personne ne peut choisir. Donc... L'esprit de la République, c'est de croître en ayant le bénéfice de faire germer son libre arbitre. Offrons ça à tous les enfants et que la femme qui se voile comprenne qu'elle s'exclut de la société. Pourquoi le fait-elle ? Alors on va dire, elle ne se radicalise pas, il ne faut pas tout confondre. Si elle ne se radicalise pas, elle est comme 75% des femmes islamistes, elle vient dans la rue sans chercher à s'affranchir de ce bien vivre ensemble. Et sinon, ça veut dire qu'elle se rapporte à quoi ? À 3 sourates, il n'y en a que 3.
Oui, on ne va pas les citer.
On ne va pas les citer, mais dans lesquelles, pour 2, on rappelle
choisit.
Que... L'homme est supérieur à la femme et que l'homme a le droit de frapper la femme. Ça veut dire que si elles acceptent ce précepte, elles acceptent cette sous-condition.
Cette soumission,
c'est pas
il faut le dire. Juste un mot quand même, Marc Menant. Est-ce que, très rapidement, on arrive, mais vous allez rester avec nous, avec les auditeurs. Est-ce que c'est pas trop tard de faire jaillir cette laïcité où il n'est jamais trop tard pour bien faire ?
Mon père a terminé dans les camps de concentration parce qu'il a été résistant. On avait l'impression, à l'époque, que c'était perdu. Et puis, ils ont été quelques héros. Et moi, je crois à la fraternité. Bien sûr, si on dit comme ça, oui, enlevez vos voix. Expliquons. Expliquons qu'on ne cherche pas, que ce sont elles qui se discriminent. C'est pas nous qui les discriminons. Là aussi, on prend les mots, puis on les renvoie en effet boomerang. On change leur sens. La tolérance, c'est admettre que les autres puissent être en dehors de ce que l'on représente. Et donc, on ne s'affiche pas à partir d'une opinion.
Marc Menant, restez avec nous.
Et restez avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, La laïcité dévoilée. C'est publié aux éditions Ramsay. Vous nous écoutez toujours sur Sud Radio, Berkoff reste dans tous ses états. Dès maintenant, vous nous appelez 0826 300 300. C'est quoi votre vision de la laïcité, par exemple? Venez nous le dire, à tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Je l'ai dit, je l'ai écrit depuis longtemps. Dans tous les frontons de France et de Navarre, à côté de liberté, égalité, fraternité, il faudrait ajouter laïcité. On en parle. Auditeurs du Sud Radio, on vous attend.
Et pourquoi ne pas ajouter Berkoff dans tous ces états pendant qu'on y est? Vous êtes toujours sur Sud Radio, nous sommes toujours avec l'invité d'André Berkoff, je le rappelle, Marc Menant, qui est journaliste et auteur de ce livre, La laïcité dévoilée. Vous nous appelez dès maintenant, 0826 300 300, tout de suite on trouve Bernard. Bonjour Bernard.
Bernard.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Je voulais intervenir sur les Kurdes.
Oui.
Mais auparavant, je voulais vous féliciter. Car vous savez, Jean-Édouard Nallier parlait de la sous-culture journalistique.
Oui.
Et vous, c'est le contraire.
Ben merci. Voilà. Écoutez, ça me touche. Merci.
Et d'autre part, de votre capacité d'indignation tout en maniant l'humour et l'ironie.
Merci encore.
Alors, s'agissant des Kurdes, disons, votre intervenant m'a paru très naïf. Et,
dites-moi. Pourquoi, pourquoi vous n'avez pas eu naïf?
Bah, disons, quand on sait comment la France et les États-Unis ont traité les Vietnamiens, et comment la France a traité les Harkis, voire les Pieds Noirs, je crois qu'il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions concernant le sort des Kurdes.
Vous croyez qu'on va les abandonner à leur sort et complètement, aussi bien les Américains que les Français?
C'est déjà fait.
Écoutez, voilà. Oui, on va voir. Non, mais merci en tout cas de votre avis. On va suivre ça, nous, de toute façon. Et j'espère, je vous le dis franchement, j'espère que vous avez tort, mais je comprends votre lucidité parce que malheureusement, les exemples ne sont pas très encourageants. Merci en tout cas, Bernard.
Merci Bernard. Vous aussi, qui nous écoutez, vous pouvez appeler dès maintenant le 0826 300 300 pour revenir sur les sujets abordés par André Berkoff dans son émission. Tout de suite, on retrouve Frédéric. Bonjour.
Frédéric, oui, bonjour.
Bonjour André, bonjour à votre collègue.
Bonjour.
Oui, moi je voulais revenir un petit peu en deux mots sur l'islam. Bon, je vous approuve entièrement, vous êtes formidable en disant qu'en fin de compte, le fond du problème ici qu'on a, c'est une lâcheté, qu'elle soit politique et même individuelle, hein, faut quand même pas se leurrer. Ouais. Deuxièmement, la laïcité. Prenons l'islam, c'est très simple, il ne se cache pas l'islam. Hein. L'islam est une idéologie qui ne sépare pas le temporel du spirituel. Alors qu'on arrête avec cette laïcité d'islam, c'est totalement incompatible. C'est contraire, l'islam, c'est sa règle de votre vie de tous les jours. Donc, qu'on arrête avec ça, ce n'est pas la religion catholique ou la religion bouddhiste où chacun prie c'est une société, c'est un régime politique dont d'ailleurs s'est inspiré le marxisme, entre parenthèses. Et puis je dis maintenant, mais comme vous dites sincèrement aussi, les Français, il va falloir qu'ils choisissent leur camp un jour ou l'autre. Ça va faire mal, mais il va falloir choisir son camp. Voilà.
Oui, Marc, je vous ai entendu et Marc Melan va vous répondre. Effectivement, alors Marc, ce que dit l'autre Marc, comme on dit, second Marc, non, il dit voilà, en fait, l'islam, dit-il, est une religion qui régente du matin au soir les règles de vie. Est-ce que c'était pas quand même le cas du catholicisme
à un moment
donné?
C'est ça qu'il faut rappeler, c'est pour ça que j'ai fait l'historique. N'oubliez pas que jusque dans les années 60, les femmes ne sortaient pas sans leur petit fichu sur la tête. Ma grand-mère aurait considéré d'être elle aussi dans l'impudeur sans avoir cette précaution vestimentaire. Et c'est trois siècles et demi de lutte pour sortir de ce carcan.
Oui, il n'y avait, avait pas que le fichu.
Mais non, non, mais il y avait, ouais, tout. Pour aller se, les femmes n'avaient pas le droit de se baigner, les femmes n'avaient pas le droit au sport, les femmes n'avaient... Et on est en train de... Alors qu'on a conquis tous ces espaces-là, on est en train aujourd'hui de laisser au nom d'une religion, alors qu'on a vaincu cette culture qui nous emprisonnait, on laisse infiltrer... Mais, on ne peut pas dire que la religion catholique était, était tolérante, elle ne l'était pas, d'où le traité d'intolérance de Voltaire, d'où cette nécessité d'avoir eu autant de martyrs pour la liberté de penser, la liberté d'exister.
Sauf alors l'islam, on je pense, est plus là, oui.
Oui, mais je pense que l'islam, eh bien, pourrait arriver voilà. au même résultat. La meilleure preuve, c'est qu'il y a quand même 75% de gens qui vivent leur confession sans qu'on le sache, et on peut deviser avec eux en toute liberté, sûr, en toute fraternité. Absolument. Parce que absolument. Si on entre dans l'idée que celui qui a une foi qu'il n'affiche pas est infréquentable, alors là, la société est, oui. est impossible.
Là, c'est eux contre nous, nous contre eux,
voilà,
c'est fichu.
Voilà.
Non, ce que vous dites, et c'est vrai, il faut rappeler, c'est pour ça que le rappel historique que vous avez fait dans votre livre est très important, il faut relativiser tout ça, tout en étant extrêmement vigilant.
Bien sûr, mais il faut avoir la vigilance de nos ancêtres, il faut être digne d'eux. Ils ont été soit trucidés, soit ils ont terminé dans les geôles, et puis après, il y a eu cette bataille phénoménale. Et n'oublions pas qu'il y avait deux camps. Ce qui est extraordinaire aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un renversement. L'anticléricalisme était de gauche, et aujourd'hui, les fossoyeurs de la République sont de gauche. Oh, on pourrait en citer quelques-uns, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir.
Allez-y,
parce qu'ils ont pignon sur Mitro. Mais non, ben oui, c'est Claude Ascolovitch qui dit « La laïcité est une camisole idéologique. » On a Régis Debray qui est en 2004 écrit un petit fascicule, il est quand même à l'origine, il fait partie de ceux qui sont à l'origine de la loi de 2004, et il dit il faut des lieux de prière dans les entreprises, bravo la laïcité. C'est-à-dire que là, on tourne le dos à Jaurès, on tourne le dos à Blum, on tourne le dos à tous ceux qui ont d'abord forgé cette loi de 1905 pour nous sortir de cette impossibilité d'être avant tout des hommes. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler à tous que nous sommes des citoyens et dire à l'islam, eh bien oui, c'est pas à l'islam que l'on s'adresse d'abord parce qu'elle n'est pas institutionnalisée de la même façon que la religion catholique, il n'y a pas de pape, mais on dit à ceux qui sont dans cette confession... Vivez là en discrétion.
Merci en tout cas Frédéric d'être intervenu sur Sud Radio 0826 300 300. Tiens, justement, reparlons des églises vandalisées avec Christophe qui nous appelle au même numéro.
Oui, bonjour Christophe. Christophe.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour.
Oui, on vous écoute Christophe. Bonjour.
Ah, merci. Oui, à un moment donné vous parliez, compreniez pas pourquoi les églises sont saccagées et on n'en parle pas comme si c'était synagogue ou mosquée. Mais je voudrais dire déjà que je trouve ça, moi, très chrétien. On prend des coups, mais on ne s'en vante pas. Et je pense que débattre ce genre d'infos, ça crée des divisions, des rancunes.
Vous voulez dire qu'il ne faudrait pas en parler ? Qu'est-ce que...
Oui, moins en parler.
Moins en parler.
Et plus exiger de l'État, qui, eux, par contre, sont dénués de sens civique depuis 30 ans. Hein. Moi, je ne crois pas que ce soit le dernier président. Hein. Mais voilà, on ne demande rien à l'État. Et les individus, par contre, ça crée de la haine. Hein. Je voulais voir d'écouter quelqu'un qui parle de laïcité, qui rebondit avec « il va falloir choisir son camp ».
Oui,
c'était Frédéric, notre auditeur.
Oui. Oui, mais je vais vous dire une chose, Christophe. Vous savez, vous pensez... Moi, je crois que... Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je crois que ne pas parler des choses, ne pas nommer les choses, eh ben, c'est pire. Parce que vous dites, laissons l'État. Mais quand on n'en parle pas, l'État, qui a beaucoup de choses à faire, dira « Oh, bah, écoutez, c'est pas grave, tout ça. Personne n'en parle. Regardez, ça ne fait pas le bruit. Ça ne fait rien. » Alors, quand il y a une histoire de concert régional, on fait des pétitions, on fait des choses... Quand les églises flambent, ou en tout cas se font caillasser, on ne dit rien. Mais je vais vous dire, ça va encourager les gens. Et je ne dis pas, on ne va pas faire de procès. Mais les gens qui font ça, ils vont être encouragés. Ils disent, regardez, on fait ça, mais personne ne dit rien, on va continuer. Je ne crois pas, Christophe, que le silence soit l'arme la plus efficace, hélas.
Non, je ne parle pas trop du silence, mais là on est tombé dans un extrême où on le raconte tout le temps sur les grandes ondes, que ce soit radio ou télé, où les programmes télé ne sont pas du tout regardés par notre, par notre République, c'est-à-dire 2 films sur 3, il y a un meurtre. Hein.
Ouais.
Et tout ça, on en parle. Moi, je suis enseignant et ouais. C'est pareil, on parle. Mais dans les faits, l'individu n'est pas très bon. Et puis surtout, c'est ce que je dis, c'est qu'à travers la justice et tout ça, l'État est complètement absent par rapport à ça.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ça,
voilà.
C'est vrai.
Merci. Et autant débattre, vous parliez des retraites, je trouve ça très important parce que c'est un grand
bien
débat.
Sûr, bien
mais
sûr.
Les histoires de religion, il me semble
ouais.
que. Voilà. Que ça attise la haine et on l'entend avec des gens. Quoi.
Oui, mais je vais vous dire, je crois, on a beaucoup parlé des retraites, mais je vais vous dire, et en tout cas c'est votre avis Christophe, et vous avez tout à fait légitimement de la voix, le droit de la voix, je crois personnellement qu'il faut parler de tout. En tout cas, nous on est là pour ça, que ce soit la religion, que ce soit la laïcité, mais je pense, je vais vous dire, que tout est lié. Vous savez, tout ça, ça fait partie de la réalité. Et cacher une partie de la réalité pour sous des prétextes quelconques, malheureusement, ne résout pas les choses.
Et sur Sud Radio, parlons vrai, parlons de tout et parlons-en avec tout le monde aussi. C'est un de nos leitmotivs. Merci à vous Christophe. 0826 300 300, tout de suite on trouve Alain qui nous appelle. Bonjour Alain.
Alain, oui bonjour.
Oui, bonjour. Moi je vous appelais sur le conflit turco-kurde.
Oui.
Il est bien évident que, heureusement qu'on n'a pas fait rentrer la Turquie dans l'Europe.
Hein. Oui.
Oui, parce que c'était ouais. la Turquie d'Istanbul, les bobos, les gens élevés, mais c'est pas le fin fond de la Turquie qui reste très, très ancienne, pour pas dire un autre mot.
Ouais.
Bon, moi je trouve que bon, les gouvernements là sont empêtrés dans les négociations. Il y aura le temps d'y avoir des milliers de morts avant qu'ils arrivent à trouver une solution, mi-figue, mi-raisin, etc. Donc en fait déjà, bah, nous citoyens, on pourrait faire un petit quelque chose. La première chose, plus question d'aller en vacances en Turquie.
Ouais.
Plus question d'acheter des produits turcs.
Ouais.
Plus question d'aller dans un restaurant turc dont 80% ont voté Erdogan.
Mm-hmm.
Et de le faire savoir.
Oui, écoutez, en tout cas, ce sont des mesures concrètes, enfin des démarches concrètes. Et je vais vous dire, Alain, moi, ce que j'aime dans ce que vous dites, c'est que ça concerne le citoyen. Tout le monde parle du gouvernement, tout le monde se défausse en disant « moi, je peux rien faire ». C'est pas vrai. Moi, à mon échelle, chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Et ce que vous dites, après, c'est des choix. Je ne dis pas que ce sont les choix de tout le monde. On peut vous critiquer, etc. Mais au moins, vous dites « moi, à mon niveau, voilà ce que je vais faire ». Et je trouve ça citoyennement très bien. Oui, Marc, vous voulez intervenir ?
Oui, je veux intervenir parce que dans cette logique du boycott des Turcs, n'oublions pas un parti politique qui va sans doute présenter des listes aux prochaines municipales, le PEJ. Et le PEJ, il est soutenu financièrement par Erdogan. Et il y a nombre d'écoles coraniques qui se développent sous son instigation. Et ce parti, dans son militantisme, demande par exemple un moratoire contre la laïcité. Vous voyez que là, il y a quand même des choses monstrueuses. Voilà, ça se rejoint. Alors oui, et n'oublions pas, parce que c'est quand même amusant du côté de l'histoire, c'est que la religion catholique a connu son essor à partir de Constantinople, donc à partir d'Istanbul, quand Constantin a fait de la religion catholique la religion de son pouvoir.
Les ruses de l'histoire. Merci Marc.
Voilà. Et la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Merci à vous Marc Menon, je rappelle la référence de votre ouvrage « La laïcité dévoilée », c'est publié aux éditions Ramsay, disponible dans toutes les librairies. André Berkoff revient demain, toujours bon pied, bon œil, à midi dans tous ses états, sur Sud Radio. La journée continue sur la même antenne, évidemment sur Sud Radio, avec Jacques Pessis qui, pour les clés d'une vie, reçoit la fille de Julien Clerc, Vanny Clerc. Belle journée à vous sur Sud Radio.